La radio du monde, toujours à vos côtés pour vous informer. Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous, bienvenue pour votre journal en français facile. Zéphirin Quadio est avec moi ce soir en studio pour le présenter. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la guerre en Ukraine et le sort des civils évacués de Mariupol. On les attend toujours dans la ville de Zaporizhzhia et les autorités ukrainiennes déplorent une situation rendue difficile par la Russie.
Et les mots de Sergueï Lavrov qui dérangent en Israël. Dans une interview donnée à une chaîne de télévision italienne, le chef de la diplomatie russe a affirmé que l'Ukraine était nazie, même si le président ukrainien est juif. D'ailleurs, Adolf Hitler avait lui-même du sang juif, affirme Sergueï Lavrov, et cela provoque la colère de l'État hébreu.
Au Royaume-Uni, l'arrivée de migrants s'était ralentie depuis un accord d'extradition passé avec le Rwanda. Mais plus de 300 personnes ont à nouveau été interceptées près des côtes britanniques en 2 jours seulement.
Et puis, les masques tombent en Corée du Sud. Les autorités ont allégé les mesures qui avaient été prises en octobre 2020 pour lutter contre le virus du Covid-19.
Le journal
en français facile.
Situation confuse aujourd'hui en Ukraine, Sébastien.
Oui, alors que sur le terrain, les frappes russes ont continué ce lundi. Les autorités ukrainiennes affirment qu'un adolescent est mort à Odessa. Eh bien, les États-Unis accusent ce soir la Russie de vouloir annexer les 2 républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk. Concrètement, cela veut dire de les faire passer sous contrôle russe en tant que région à part entière du territoire russe, comme Moscou l'avait fait pour la Crimée. Washington affirme posséder des informations très crédibles selon lesquelles les autorités russes veulent organiser bientôt des référendums.
Et pendant ce temps, toujours l'inquiétude autour des civils de Mariupol.
On attend toujours à Zaporizhzhia les civils évacués de cette ville de Mariupol grâce au cessez-le-feu temporaire négocié sous la médiation des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Précision de Vincent Souriot.
Le processus d'évacuation est très difficile. C'est ce que déplore le maire de Mariupol, Vadim Boychenko, qui s'inquiète en particulier des centres de filtrage mis en place par l'armée russe. Car chaque civil souhaitant quitter la ville doit passer par ces points de contrôle, faire la queue, s'enregistrer, fournir ses documents d'identité, des détails sur son environnement personnel. Et ce dispositif représente, selon les autorités ukrainiennes, à la fois une humiliation pour ces familles qui ont déjà passé des semaines sous terre du fait de l'offensive lancée par Vladimir Poutine, mais aussi un moyen de pression pour les dissuader de rejoindre le territoire ukrainien. La petite centaine de personnes qui, elle, a pu quitter hier l'usine Azovstal doit arriver à Zaporizhzhia dans la soirée. Ces personnes y sont attendues par l'UNICEF et plusieurs représentants d'organisations internationales. Il resterait, selon la vice-première ministre ukrainienne, des centaines d'individus encore bloqués sur place. Impossible de dire à ce stade quand elles auront l'occasion de partir, car selon l'armée ukrainienne, les bombardements ont repris immédiatement après la fin de l'opération d'évacuation mise en place ces derniers jours.
Vincent Souriot.
Et après les sanctions et la riposte de la Russie, l'Union européenne se prépare désormais à ne plus recevoir de gaz russe.
Oui, la Commission européenne et la présidence française du Conseil ont prévenu. En effet, après une réunion d'urgence des ministres européens de l'énergie à Bruxelles, la raison ? L'Union européenne refuse de payer ses achats de gaz en roubles, la monnaie russe. C'est une mesure qui avait été décidée par Moscou en réaction aux sanctions occidentales. Moscou, qui a d'ailleurs déjà arrêté de fournir du gaz à la Pologne et à la Bulgarie pour le même motif.
Dans ce contexte, des propos du ministre russe des Affaires étrangères dérangent jusqu'en Israël.
Sergueï Lavrov a donné une interview à une chaîne de télé italienne. Il a insisté entre autres sur la position du Kremlin, selon laquelle il faut dénazifier l'Ukraine. C'est-à-dire enlever tous les éléments nazis qui seraient en Ukraine, selon la version officielle russe. Peu importe pour Moscou si le président ukrainien est lui-même juif. Naturellement, les propos de Sergueï Lavrov sont très mal reçus en Israël et les réactions ne se sont pas fait attendre. On peut presque parler d'incident diplomatique. À Jérusalem, écoutez la correspondance de Michel Paul.
On peut parler de colère et surtout de stupéfaction. Sergueï Lavrov a notamment affirmé que même si Zelensky était juif, cela n'enlève rien au caractère nazi de l'Ukraine. Et le ministre russe d'ajouter « Hitler avait du sang juif et parmi les pires antisémites, il y a des juifs ». Alors naturellement, ces propos du ministre russe des Affaires étrangères ont été mal reçus ici. La réaction de Yair Lapid, son homologue israélien, ne s'est pas fait attendre.
Ce sont des propos impardonnables, scandaleux, et c'est aussi une terrible erreur historique. Nous attendons des excuses. L'ambassadeur de Russie va être convoqué au ministère pour un entretien pas commode.
Réaction du même acabit à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, où l'on parle de propos délirants, dangereux et dignes de toute condamnation. Alors on sait que dans le conflit avec l'Ukraine, Israël marche sur des œufs pour ne pas attaquer frontalement la Russie. Cet incident pourrait, estime-t-on, marquer un changement de la politique israélienne. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Un nouveau recul dans les relations entre la France et le Mali.
Les autorités maliennes ont dénoncé ce lundi le traité de coopération signé le 16 juillet 2014 en matière de défense, ainsi que les accords déterminant le statut des forces Barkhane et Takuba. Le ministère malien des Affaires étrangères affirme avoir informé les autorités françaises.
On en vient, Sébastien, au dossier migratoire au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni a recensé l'arrivée de 350 migrants sur ses côtes en moins de 2 jours. Principalement des hommes, seuls, tous partis de France, sur des embarcations précaires, sur des bateaux à la sécurité incertaine. Emeline Vin, cela faisait pourtant presque 2 semaines que les traversées s'étaient vraiment ralenties.
Ce n'est pas un record, mais le chiffre reste impressionnant. 254 migrants interceptés dimanche par les gardes-côtes britanniques, une centaine ce lundi, probablement un effet de rattrapage, selon les ONG, après 11 jours sans traversée connue de la Manche. Pour le gouvernement britannique, c'est la preuve que sa politique migratoire fonctionne et dissuade les candidats à l'asile. La semaine dernière est entré en vigueur le partenariat migratoire avec le Rwanda. Les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique peuvent désormais être envoyés à Kigali et obligés de demander l'asile là-bas. L'ONG Care for Calais, active dans les camps du nord de la France, indique, après avoir posé la question à une 60aine de migrants, que la perspective d'être envoyé au Rwanda ne dissuaderait que 25% d'entre eux de traverser la Manche. Pour les associations, la pause s'explique surtout par la météo, plutôt froide et venteuse fin avril. Depuis le début 2022, 6000 personnes seraient arrivées à Douvres, illégalement par la mer, plus que n'importe quelle autre année sur cette période. Emeline Varlondre, RFI.
En Corée du Sud, les autorités allègent les mesures qui avaient été prises pour lutter contre le Covid-19.
Le masque en extérieur, c'est terminé depuis ce lundi. Et comme le nombre de cas continue de baisser, les Sud-Coréens ont pu profiter d'un lundi ensoleillé pour faire tomber le masque pour la première fois depuis octobre 2020. Notre correspondant à Séoul, Nicolas Roca, est allé à leur rencontre.
Au premier coup d'œil, ce lundi, difficile de voir que le port du masque n'était plus obligatoire en extérieur. La plupart des habitants de la capitale préféraient continuer à se protéger, comme Kaen, la trentaine.
Je ne me sens pas en sécurité de marcher dans la rue sans mon masque. La situation du Covid ici est toujours compliquée. Et puis je dois le porter encore à l'intérieur, donc je ne vois pas l'intérêt de l'enlever pour le remettre.
Pourtant, avec seulement 20 000 nouveaux cas recensés, ce dimanche, la Corée du Sud connaissait le niveau de propagation du virus le plus faible depuis 3 mois. John Q attendait ce jour avec impatience.
Je suis très content et soulagé car je n'ai jamais aimé porter un masque dehors. J'attendais juste de pouvoir être libéré de cette contrainte.
Yuna a aussi préféré profiter de la levée de l'interdiction, mais elle ne s'attendait pas à voir autant de ses concitoyens garder le masque à l'extérieur.
J'étais très contente ce matin de pouvoir enlever mon masque, mais quand je suis sortie, j'ai vu que tout le monde le portait, ce qui m'a un peu découragée. Mais j'ai fini par l'enlever quand même.
Après 2 ans de pandémie, les habitudes sanitaires ont la vie dure en Corée du Sud. Peut-être l'une des raisons du succès du pays dans sa lutte contre le virus. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
À Séoul, il est 5h10 du matin. C'est la fin de votre journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio.
Merci à vous Sébastien.
Un journal à retrouver bien sûr sur le site internet rfi.fr.